Bonjour et bienvenue dans l'émission des éclats de lyre. Je vous propose aujourd'hui un entretien avec Donatienne Ranc, autrice et conteuse pour la jeunesse. Nous avons échangé autour de son rapport à l'oralité, à la nature et de son livre « L'arbrophone ». Donatienne Ranc, bonjour.
Oui, bonjour Julie.
Vous êtes conteuse et écrivaine, notamment pour l'enfance. Qu'est-ce qui vous a mené à la parole puis à l'écriture, ou alors, à moins que ce soit l'inverse, à l'écriture puis à la parole?
Alors, c'est une bonne question. Déjà, pour reprendre les choses au début, moi j'ai grandi à la campagne, à la montagne, au milieu des cailloux, des rivières, des arbres. J'ai grandi dans un petit village avec une ribambelle d'enfants. On avait tous les cheveux au vent, les genoux gratignés parce qu'on courait dans les herbes, les cailloux, etc. On créait beaucoup de spectacles aussi. Beaucoup de comédies qu'on jouait pour les villages, les parents, les voisins, les copains. Et notamment, j'étais moi responsable d'écrire les histoires et les spectacles. Et les copains, ben, et les voisins, et les frères, les sœurs, etc., se costumer, se déguiser pour aller jouer tous ces spectacles-là. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a un lien qui est très fort chez moi entre la vie de l'enfance, de la nature, dans la nature, et l'écriture. Entre cette vie très buissonnière et la littérature et la poésie. Voilà, donc déjà pour installer un petit peu le terreau et expliquer comment je crois que mon écriture, elle est venue de bien loin, dans mon enfance, dans ces jeux de l'enfance, ces jeux de ritournelles, de comptines, de créations pour les autres.
Effectivement, la nature est très présente dans votre travail. Il y a même une dimension écologique qu'on verra peut-être un peu plus tard en parlant plus précisément de ce livre, L'arbrophone.
Oui.
Mais quel lien est-ce que vous faites entre la nature et l'enfance? C'est vraiment lié à vos souvenirs ou ça peut aller plus loin?
Le lien entre la nature et l'enfance, alors oui, c'est très très clairement lié à mon enfance, à mon parcours de petite fille qui a grandi en pleine campagne. La question, c'est entre la nature et l'enfance, c'est ça?
Est-ce que vous pensez que les enfants sont plus proches de la nature que les adultes?
Alors, oui, je pense qu'ils sont beaucoup plus proches parce qu'ils sont beaucoup plus sensibles, les oreilles ouvertes, les yeux curieux. Je pense qu'ils ne sont pas encore trop abîmés par la société, par toutes les normes aussi, par tout ce que les écrans peuvent imposer. Il y a encore une fraîcheur, il y a encore une candeur, je crois, chez les enfants que peut-être on perd en grandissant de par les normes sociales, les conventions. Voilà. Ce que j'espère, c'est que les enfants ne perdent pas toute cette fraîcheur, évidemment. Et je crois que quand on est artiste, quand on est poète, quand on est comédien, quand on essaye justement de jouer avec l'art, on essaye de retrouver cette part d'innocence de l'enfant. Je pense, oui.
Vous avez suivi, je crois, un master de littérature d'enfance et de jeunesse.
Oui, tout à fait. Alors, j'ai repris des études en parallèle, évidemment, de tout ce que je fais.
Parce que vous étiez déjà bien investi dans la vie active avec votre travail autour des livres et de l'oral. Pourquoi avoir suivi des études sur le tard, entre guillemets?
Oui, alors c'est une bonne question. En effet, j'avais déjà une vie bien dense entre le spectacle vivant, les contes, l'écriture, mais aussi mon métier d'enseignante. et de formatrice aussi en littérature de jeunesse. Et pourtant, je pense que c'est lié à ma curiosité insatiable. J'avais vraiment besoin de me pencher plus avant sur ce que font les autres, la littérature des autres, et de sortir un petit peu de mon ronron peut-être, de ma manière d'écrire et d'être au monde avec mes mots à moi, et de me pencher plus avant sur la littérature de jeunesse. Voilà. Mais j'avoue que j'avais pas du tout de projet derrière, d'ambition carriériste. L'idée, c'était vraiment de continuer à explorer ma passion pour la littérature de jeunesse. Voilà. Mais je vous avouerai que dans la vie tourbillonnante que j'avais déjà, ça a été un gros morceau. Mais je suis très 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 contente d'avoir suivi ce master. Et d'autant plus que je me suis tournée vers un sujet qui me tient à cœur, hein, puisque nous parlions de la nature tout à l'heure, que sont les fleurs sauvages et les herbes folles en littérature de jeunesse.
Ça, c'est le sujet de votre mémoire. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce travail ?
J'ai travaillé sur un corpus d'une cinquantaine d'albums de jeunesse et j'ai étudié le rapport au vivant à travers ces albums-là, voilà. Et notamment à travers une nature qui est souvent un peu sous-exploitée, mise de côté, parce que ce sont les petites fleurs, les simples, comme on dit. Donc, je me suis intéressée aux fleurs sauvages, aux fleurs buissonnières, à ces petites herbes que l'on voit pas toujours, le petit pissenlit au coin de la rue, la ronce sauvage, mais toutes ces herbes en fait qui font notre quotidien et que l'on regarde pas toujours, mais qui en fait sont sous nos pas et qui du coin de l'œil et de la feuille frétillent et scintillent, voilà, et qui racontent le monde à bas bruit.
Qu'est-ce que vous avez cherché à analyser ou à comprendre à travers ce mémoire ?
Je pense que j'ai cherché à comprendre le lien très étroit qui unit l'enfance aux petites choses de la nature qui l'entourent. Il ne s'agissait pas de parler des grands cocotiers, des grands palmiers exotiques qui en mettent plein la vue. J'essayais de comprendre ce lien très intime et très ténu qui unit l'enfant à une petite feuille d'arbre qui tombe, mais avec laquelle il va jouer, une petite coque de noix avec laquelle il va faire un petit bateau de noix, un petit caillou qui va devenir tout un voyage, tout un monde. J'ai essayé de comprendre comment cette nature si infime et si petite a priori, en fait, c'est tout un voyage, tout un univers, tout un monde pour l'enfant.
Donatienne Rank, vous êtes donc autrice et conteuse et vous effectuez un va-et-vient constant entre l'écrit et l'oral, il me semble. Quand une histoire naît, pour vous, est-ce que c'est d'abord un texte destiné pour le livre ou une histoire plutôt faite pour être racontée à l'oral ?
Alors, c'est vrai que j'ai toujours l'idée derrière et l'intention que ce soit conté, que ce soit lu en public, que ce soit oralisé. Il ne s'agit pas nécessairement d'une écriture qui va être familière et orale. C'est une écriture qui reste quand même très littéraire, mais j'ai l'idée qu'elle soit sonore, j'ai l'idée qu'elle soit chantante, j'ai l'idée qu'elle soit musicale, qu'elle soit rythmique, qu'elle soit cadencée, qu'elle soit rythmée. Pour moi, l'écriture, elle est vraiment musicale. C'est une partition.
J'imagine que vous écrivez toujours à voix haute. Vous vous servez de cet outil.
Oui, je crois que j'écris vraiment, vous avez raison, avec mes oreilles, avec mes papilles. J'ai besoin que la langue, elle chante. Elle chante comme cette rivière dont je vous parlais, cette rivière de mon enfance, ces ruisseaux, ce vent qui voltige et qui virevolte dans les arbres. J'ai vraiment besoin qu'on entende les sons, les allitérations, les assonances, que ça sautille, que ça frétille, que ça danse même. Et je crois, en effet, vous avez raison, que mon écriture, elle est vraiment sonore, elle est destinée à être chantée presque. C'est comme la partition d'un musicien, elle est écrite, hein. Mes mots, ils sont clairement pensés, écrits, réfléchis, mais ils sont pétris comme une pâte à tarte, hein, puisque c'est d'ailleurs le sujet d'un de mes livres, La tarte aux lettres, pour être malaxé et pour être dit et pour être voilà pour que ça croustille, quoi.
Et lorsque vous adaptez un livre pour la scène, est-ce que vous pouvez changer plutôt l'histoire, plutôt le rythme, la structure?
Alors, en général, je respecte à la lettre mon texte. Parce que...
Parce qu'il est déjà tout, il a tout pour l'oralité déjà.
Voilà, il est déjà construit, je pense, comme une partition sonore, comme je vous le disais. Mais par contre, ce qui va tout changer, c'est le vivant et le public. C'est-à-dire l'intention que je vais mettre dans la voix, le rythme que je vais installer. Est-ce que je vais mettre un peu plus de pause, un peu plus d'intensité sur tel mot? En fait, c'est comment je vais l'interpréter. On peut imaginer un musicien, il a sa partition, ou un pianiste, il a sa partition, et ensuite il va y mettre tout son corps, toute son âme, toute son interprétation. Et c'est là, en fait, la différence, c'est-à-dire que la scène, elle va y mettre en plus une interprétation qui va être à chaque fois différente selon la tension du public, selon qu'il fait froid, il fait chaud, qu'on joue dehors, dedans, que c'est l'été, le printemps, l'hiver. C'est ça, je crois, qui va changer. C'est le contexte. Mais le texte, je le respecte à la lettre.
Vos livres, ils sont illustrés par d'autres personnes, par des illustrateurs. Et cette partie-là, sur scène, elle est amenée à disparaître. Comment est-ce que vous pouvez la remplacer ?
Alors, c'est vrai que le travail de l'illustration, moi, je n'agis pas dessus. Lorsque je suis sur scène, je crois qu'en fait, c'est presque comme si je recréais des illustrations, mais cette fois, peut-être avec mon corps. Car sur scène, vraiment, je fais danser mes mains, mon visage, mes cheveux et mon corps aussi, puisqu'il y a très souvent aussi une part chorégraphique qui s'immisce et qui s'intègre à la parole. Et c'est peut-être cette forme-là gestuelle qui va créer l'illustration, si je peux dire.
Jogo da amarelinha na linha não vai pisar. Pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Cuidado pra te quebrar, menina pequena. e niña tonta di tanto llorar. Tu lloro malacoa y a la que vomiva ya. Le jeu de la marée, le vin de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. La 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 la.
L'arbrophone, c'est un petit roman illustré que vous avez sorti aux éditions du Pourquoi Pas cette année, il me semble, en 2025.
Mmh.
Et l'année dernière, pardon, cette émission est diffusée en janvier. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce livre, nous présenter cette idée-là ?
Oui, alors l'arbrophone, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Lou, qui a 11 ans. Et qui a un ami particulier qui est un châtaignier. Un châtaignier dans lequel elle a construit une cabane et dans lequel elle passe beaucoup, beaucoup de ses nuits d'été, ses nuits étoilées, dans lequel elle dort et avec lequel elle joue beaucoup et dans lequel elle va entendre des sons bizarres, une nuit particulière, une nuit d'été. Et ces sons étranges, ce sont des signaux que lui envoie l'arbre, donc le châtaignier qu'elle appelle Châti. Des signaux très étranges qui vont constituer un code secret qu'elle va essayer de décrypter. Et ce code secret, c'est un petit peu comme le morse, mais un morse un petit peu singulier qu'elle va essayer d'analyser et qui va lui permettre de comprendre que l'arbre Châti lui distille comme ça des messages qui sont pas complètement anodins, des messages qui racontent un appel de la forêt, un appel de détresse, un appel des arbres qui ont besoin que l'on les respecte, que les humains s'occupent un petit peu mieux d'eux. Voilà. Alors évidemment, c'est tout en poésie, tout en délicatesse, et puis surtout avec beaucoup d'humour et puis beaucoup de musique. Et Lou va devoir fabriquer une sorte d'instrument un peu étrange, un peu bizarre, qu'elle va appeler l'arbrophone, fabriqué de briques et de broc, avec des bouts d'arrosoir, des bouts de ficelle, pour créer un engin, une machine qui va permettre à l'arbre de s'exprimer en vrai.
Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ce personnage de Lou qui est une préadolescente, qui n'est pas très très douée à l'école, mais super débrouillarde, dégourdie et très respectueuse du vivant ?
Alors cette petite fille, en effet, elle est hyper débrouillarde. Alors oui, c'est pas une petite fille très scolaire. Et pour autant, elle a plein d'idées, plein d'envie et une curiosité pour tout le monde qui l'entoure. C'est vrai. Cette petite fille, je crois qu'elle vient un petit peu de mon enfance. Peut-être de ma propre fille aussi, qui a passé beaucoup, beaucoup de nuits dans sa propre cabane en haut des arbres où elle a dormi grande quantité de nuits sous les étoiles. Et voilà, donc je pense que cette petite fille, elle s'inspire de ma propre vie, de la vie de ma fille aussi. Et puis, elle s'inspire aussi de ce que j'espère que deviendront, enfin que, comment dire, j'espère que les enfants aujourd'hui auront cette chance de vivre un lien très fort avec la nature, avec les arbres, les ruisseaux, les cailloux. Et voilà, c'est une sorte d'appel aussi aux lectrices, aux lecteurs, aux jeunes enfants aujourd'hui pour aller dehors,
pour sortir de leurs écrans. J'ai peur qu'ils soient un peu enfermés dans leurs jeux vidéo, leur téléphone portable.
Et justement, au cœur de ce livre, il y a le sujet de l'écoute.
Alors, bah oui, puisque cette petite fille, elle a l'écoute en fait des signaux secrets de son châtaignier.
Oui.
Elle a les oreilles ouvertes au monde. Elle a pas d'œillères. Elle n'est pas enfermée, comme je disais, sur des écrans. Elle est toute ouverte au monde.
Est-ce que vous avez fait des recherches sur la communication végétale pour écrire ce livre ?
Alors, pas des recherches très poussées, non. Je pense que c'est plutôt venu d'une intuition, même si je suis quand même très ouverte à une philosophie qu'on appelle philosophie du vivant, que Baptiste Morisot ou Vinciane Després aujourd'hui distillent largement. C'est une philosophie qui me touche beaucoup et qui fait écho et résonne beaucoup avec ma manière de voir le monde et avec la manière dont j'ai grandi. J'ai pas fait des recherches scientifiques très poussées à ce sujet. Je pense que ça émane plutôt d'une intuition que le vivant autour de nous, elle nous raconte des choses, des histoires. Et aussi important que nos vies d'humaines et d'humains. Voilà, qu'il y a tout un monde à découvrir, à explorer, et que si on sort un petit peu de nos canevas, de nos schémas proprement humains, il y a peut-être aussi tout un monde à découvrir et qui en a bien des choses à dire et à raconter.
Dans cette histoire, il y a un message écologique très fort. Est-ce qu'il fait mouche auprès des enfants que vous rencontrez ?
Oui, je crois. Je pense que les enfants sont très très sensibles à la question de notre planète. Je ne crois pas qu'il faille néanmoins les alarmer, être dans une posture dramatique et alarmiste. Mais je pense que les enfants sont pétris d'espoir et comme on le disait tout à l'heure, ont un lien, je pense, alors c'est peut-être un peu rousseauiste, mais de base très 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 fort avec le vivant et avec la nature qui les entoure. Donc je crois que je crois que l'arbrophone les touche, oui, mais oui, peut les toucher en tout cas.
Y a-t-il un passage de ce livre ou peut-être un aspect que vous aimez particulièrement ?
Oh là là, c'est difficile à...
Oui, surtout que c'est votre œuvre personnelle, donc c'est très compliqué. Moi, par exemple, c'est quand Lou, la jeune fille, se rend compte qu'elle ne pourra pas déchiffrer le message de son arbre si rapidement et qu'elle doit, appréhender la patience.
Oui, tout à fait. Les choses sont, c'est comme dans la nature en fait. Les choses, elles se découvrent pas à pas, petit à petit, brindille après brindille. C'est une découverte, à petits pas de fourmi en fait. Oui, vous avez raison en fait. Lou, elle doit explorer la patience. Elle doit explorer Le temps.
Le temps long.
Pardon ?
Le temps long, justement, oui, de découvrir les choses.
Oui, le temps long, le temps long des saisons, le temps long d'une nuit, le temps long du vent qui va raconter sa chanson. Oui, vous avez raison. Et pour un passage en particulier, alors sans dévoiler la fin bien sûr, mais j'aime beaucoup, je crois, ce moment où tous les enfants se retrouvent autour du châtaignier, de Chatty, et vont prendre à cœur la défense de la forêt.
et vont partir tout de go ensemble pour créer une forme de manifestation, mais tout en poésie, partir ensemble en farandole pour crier à la liberté des arbres. Voilà. Je pense que ça fait écho à ma propre enfance, où justement, comme je disais tout à l'heure, avec tous les enfants du village, on allait créer nos histoires, nos chansons, nos spectacles pour tous les villageois. Et on était ensemble, on créait un chœur, C-H-O-E-U-R, et un chœur peut-être C-O-E-U-R, voilà, d'humanité, et de joie et d'enthousiasme. Voilà, et on faisait tout ça avec cœur et ensemble. Voilà, le cœur et le cœur.
Merci beaucoup, Donatienne Rank. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
Peut-être un message à l'attention des enfants, voilà, de croire en eux et de croire en leur connexion très profonde avec la nature. Mais aussi un petit mot aux grands enfants, à tous ces adultes qui, je crois, ont encore une part d'enfance en eux et à laquelle j'espère ils vont se raccorder. J'espère qu'ils vont continuer à lire des histoires pour les enfants, parce que je crois aussi qu'elles parlent d'eux, de leur enfance. Ouais.
Merci Donatienne, on se retrouve au mois de mai aux Éclats de Lyre au Vigan.
Merci beaucoup Julie, c'est un grand plaisir que j'aurai à vous rencontrer et à rencontrer toutes les lectrices, tous les lecteurs, toutes les spectatrices et tous les petits spectateurs, avec grande joie.
Au revoir.
Au revoir.